Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Il est 17h03 sur RMC. C'est le Super Moscato Show avec Eric Dimeco, avec Stephen Brun, Jérôme Pinault, Adrien Aiguin et avec vous, bien sûr, au 32-16. On va parler de la Coupe du Monde dans cette troisième heure avant le Kikadi. Kikadi qui, je vous le rappelle, peut vous permettre de gagner une cave à vin 12 silence de la sommelière. Vous appelez le 32-16 touche 4 ou vous envoyez Kikadi par SMS au 7-32-16. Juste avant le Kikadi, on parlera de Pogacar. Voilà, Pogacar, plus que jamais favori pour le Tour de France. Mais d'abord, nous allons repartir sur l'équipe de France et Ousmane Dembélé. Ce qui est bien avec ce match contre l'Irak, c'est que Didier Deschamps à retrouver le sourire.
Pour aller loin dans ce mondial,
enjoy one life.
Les Bleus comptent sur un grand Ousmane Dembélé.
Quelqu'un sur qui je peux compter, je m'appuie bien évidemment. Et...
Problème, le natif d'Evreux peine à confirmer.
Je ne vais pas revenir sur les problèmes qu'on a eus dans ce secteur.
60 matchs.
Tous les matchs, il ne les a pas commencés en tant que titulaire.
34 titularisations pour seulement 7 buts.
Toujours des axes d'allumé rassurants.
Aucun en phase finale d'Euro ou de Coupe du Monde.
J'avais déconnu une bonne période, une période plus difficile.
Le Parisien souffre de la comparaison en équipe de France.
Bon, on a critiqué son Ballon d'Or.
Dans l'ombre de Kylian Mbappé en bleu.
On a de très bons attaquants.
Ouais, la meilleure équipe.
Ousmane Dembélé doit trouver sa place dans un collectif qui vise la victoire finale.
Oui, c'est très bien. La victoire, c'est la chose la plus importante pour que la fête soit vraiment malade.
RMC, le gros débat du Super Moscato Show.
Qui rigole?
Non mais Jérôme, tu vas pas rigoler, Jérôme, quand même.
Il va pas pleurer non plus.
Non mais respecte le sélectionneur national.
Je respecte, mais c'est tellement beau et joli à entendre.
Est-ce que c'est pas une marque de respect?
Un festival. C'est le respecter que de rire.
Ah oui, évidemment. Si on n'osait pas se moquer de lui, ce serait un peu de...
Puis on se regarderait tous un peu bizarrement. Parce que
comme si on pouvait faire semblant de pas entendre.
Eric.
Allez, la France a facilement battu l'Irak 3-0. C'est un match qui a permis à l'attaque des Bleus de progresser. Barcola remont sur son côté, assez intéressant. Dembélé plus inspiré que face au Sénégal. Le Ballon d'Or a inscrit un but et donné une passe décisive à Mbappé. Est-ce que ça peut être le déclic? Un but qui en appelle d'autres. La fameuse théorie du ketchup pour un attaquant. Reprise par beaucoup. Hein. Souvent, on le dit, après une période de disette, le premier but débloque tout.
Qui dit ça, en fait?
Qui dit ça? Je pense que Jean-Pierre c'est... Papin, par exemple.
Jean-Pierre Papin, il sortait tout le temps, pour Jean-Pierre.
Ah non, il y a eu des périodes où il marquait moins, Jean-Pierre. Hein. Et c'est pour tout le monde pareil.
Non mais la théorie du ketchup, c'est pas un Anglais qui avait sorti ça.
Que pour Eric, le ketchup n'est jamais sorti, j'ai l'impression.
Alors, on va aller voir les réactions de l'équipe de France, ce but d'Ousmane Dembélé à Boston avec Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut Fab.
Est-ce qu'il y avait une sorte de soulagement autour du Ballon d'Or après cette deuxième mi-temps?
Oui, parce qu'Ousmane Dembélé aurait pu douter. Hein. Après un premier match moyen, les critiques se sont abattues sur lui. Mais le Ballon d'Or a de la ressource. Un but et une passe décisive pour Kylian Mbappé. Heureux de voir son ami à ce niveau.
C'est important pour lui de marquer un but. On voulait qu'il marque. Toute l'équipe voulait qu'il marque. Je pense qu'on a voulu l'alimenter. Parce que, comme on l'a dit, avant le match, pour nous, c'est un joueur qui est essentiel. Et on sait que quand il joue comme il a joué aujourd'hui, pour nous, ça va être tout bénef et l'équipe, elle sera encore meilleure. Hein, il y a une volonté de que Ousmane se sente bien, se sente à l'aise, peu importe où il joue, mais qu'il puisse jouer son football. Parce que quand il joue son football, comme on l'a dit, c'est un joueur unique et spécial.
Un joueur unique qui joue dans l'axe avec le PSG et que Didier Deschamps a replacé à droite hier soir. Le sélectionneur est content de voir que ça fonctionne.
Il n'y a pas de souci avec Ousmane. Il doit lui aussi, je comprends ça, se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l'année. Et le dernier match qu'on a fait, mis à part le deuxième match de prépa contre l'Irlande, voilà, après, à partir du moment où Ousmane se sent bien physiquement, et c'est le cas, après c'est juste des ajustements. J'ai confiance en lui, il le sait, et lui, bon, c'est pas quelqu'un qui doute non plus, mais évidemment, d'avoir fait ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est important parce que c'est un joueur qui est décisif.
Oui. Après Mbappé qui a démarré sa Coupe du Monde en boulet de canon, Michael Olise aussi désormais, Ousmane Dembélé est au niveau et c'est de très bon augure pour le groupe France.
Merci Fabrice pour que les choses soient plus
on se moque pas
précises.
Pas, Fabrice,
la citation du ketchup, on la doit à Cristiano Ronaldo quand même. C'est pas n'importe qui.
C'est Cristiano.
Eric, il réouvre le pot de ketchup.
Non, alors écoute, je crois bien sûr à la théorie du ketchup dans le sens où Alors je crois à la théorie du ketchup pour les buteurs, les grands buteurs, les exclusivement
pour Jean-Pierre
buteurs.
Patin, et Cristiano Ronaldo.
Parce que c'est vrai que les mecs qui marquent beaucoup de buts, ils ont toujours dans une saison ou dans leur carrière des moments où ben ils sont pas en réussite. Alors un match, deux matchs, trois matchs pour un attaquant de pointe et un grand buteur, trois matchs ça fait beaucoup, ça marquer. Et donc rappelez-vous, c'est même Benzema en équipe de France à un moment donné qui avait pu marquer pendant un long moment. Non, je crois, si
oui, Giroud avait piqué sa place.
Voilà. Donc ça existe pour les grands buteurs. Et en effet, généralement, quand ils recommencent à marquer, eh ben, vu que c'est des mecs qui marquent beaucoup, ça coule beaucoup le ketchup. Voilà. Mais là, c'est pour ça que là, dans ce débat-là, pour moi, ça vaut pas dans le sens où Dembélé c'est pas un grand buteur. Il a d'autres choses à faire que mettre des buts sur le terrain. Et à la limite, Dembélé en équipe de France, c'est bien quand il marque. Et plus il marquera, mieux ce sera, bien sûr.
C'est pas indispensable.
Parce que ça fera une solution de plus. Mais notre buteur, c'est Mbappé. Donc ce que j'attends. Moi, je veux voir en équipe de France le Dembélé qui élimine chaque fois qu'il va provoquer. Il fait des différences. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Alors hier soir, c'est bien parce que hier soir, le premier ballon qu'il a, il aurait pu être tenté de la mettre au fond, alors que c'était peut-être plus difficile que de faire la passe. Il fait la passe. Donc, on n'a jamais douté que ce garçon-là était dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour croquer. Il fera toujours ce qui est mieux pour l'équipe. Derrière, il a la chance en plus de marquer. Donc, beaucoup de satisfaction et il a emmagasiné de la confiance sur ce coup-là. Mais Dembélé, on a besoin de lui à partir des matchs à élimination directe et il faut qu'il fasse des grosses différences.
C'est bien qu'il se remette en confiance déjà. Imagine qu'il galère face à l'Irak hier,
à aucun moment on a pensé se faire accrocher par l'Irak.
Lui aurait pu être moyen, ça, c'était possible.
Oui, bah sa première mi-temps.
Il est
moyen en première mi-temps. Donc moyen,
mais il fait deux trois trucs que tu dis qu'il a retrouvé un peu de gaz. Il élimine, il tente des choses sur le côté droit ou qu'on n'avait pas vu au premier match.
Ouais, il est un peu plus léger.
C'est pour ça qu'il
n'a pas peur de mal faire. Enfin, non, pas.
Voilà.
En tout cas, il continue d'essayer, quoi.
Ce qui est important, moi, je pense que la formule offensive d'hier soir est la meilleure pour moi.
Ah oui.
Moi, j'aime beaucoup Barcola sur ce côté gauche. Il apporte des trucs à plus. Il va 2000 à l'heure. Il provoque tout le temps. Alors, il a du déchet, mais il pose d'autres problèmes. Alors, l'équipe pêche beaucoup à droite parce que Dembélé,
Olise est
attiré par ce côté droit. Mbappé, il va un peu de partout. Donc, si tu veux, je pense que si on doit finir avec quatre attaquants, on finira avec Dembélé côté droit. Et donc, il faut qu'il fasse un match plein contre un grand adversaire dans ce couloir-là, c'est-à-dire en mettant le feu, voilà, comme il sait faire. Hein. Il a fait ça pendant toute sa carrière. Ça fait qu'un an hein, qu'il joue dans cette position hybride au PSG. Hein. Il a joué toute sa carrière sur ce côté droit. Hein.
Stephen.
Eric a raison de dire que, en équipe de France, moi, j'attends pas Dembélé la même quantité de buts qu'il a avec le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il est pas seul en pointe, mais il y a personne qui est devant lui. Là, sa position en bleu.
C'est les buts, mais c'est la confiance et apporter quelque chose.
Mais tu parles de ketchup. Le ketchup, c'est le déblocage des buts. Le fait qu'il joue à droite avec l'équipe de France va forcément moins lui permettre de mettre des buts qu'avec le Paris Saint-Germain là. Et quand on a Mbappé à ce niveau-là, est-ce qu'on a vraiment besoin que Ousmane tente systématiquement de mettre des buts? Moi, ce qui m'a plu hier, c'est l'entente déjà au lycée Mbappé Dembélé que j'ai trouvé intéressante. Et surtout, et c'est là où Kylian Mbappé, au-delà de son impact sur le terrain et sa capacité à mettre des buts, mec, je trouve que Mbappé, depuis le début de la compétition, est un bon capitaine, très bon capitaine en conférence de presse. Et même sur le terrain hier, je le vois avoir envie de redonner un petit peu de vie à Ousmane Dembélé. Il laisse passer un ballon à un moment donné qui peut frapper parce qu'il y a Ousmane derrière. Je vois Mbappé impliqué pour les autres, Pierrot. Alors ça ne m'empêche pas d'avoir quelques situations d'égoïsme pour mettre des buts, mais je trouve un peu plus tourné vers les autres. Et
ça c'est tous les buteurs. Hein.
Oui, non, mais ça c'est, je trouve intéressant d'avoir cette volonté de. Ils savent que ils ont trop besoin d'Ousmane Dembélé. Ils connaissent le talent et le niveau de ce joueur-là, et ils ont besoin que lui soit dans un bon mood, et ils ont besoin qu'il soit sur le terrain et qu'il n'y ait plus trop de polémiques, parce que les polémiques commencent à augmenter. Si là il fait un petit match hier contre l'Irak, on parle que de ça, Pierrot. Est-ce que Dembélé doit aller sur le banc? Est-ce qu'il faut le remplacer? Là, ils se sont achetés un petit peu la paix avec ces débats-là. Maintenant,
maintenant Ousmane Dembélé, moi je l'ai vu tenter des choses hier, il a sa capacité d'élimination, la passe qu'il fait, comme Eric le dit, il aurait pu être un peu gourmand et mettre le but. Moi j'ai jamais eu de doute sur Ousmane Dembélé, et le match que j'ai vu hier.
On pouvait avoir des doutes quand même, Steve. Ouais, j'ai jamais eu de doute.
Des doutes,
pour rentrer dans la compétition.
Vraiment, après un match contre la Côte
d'Ivoire,
rappelez-vous le début du match contre le Sénégal, il est dans une position où il n'a pas vraiment la
d'être. Oui, je parle des précédentes campagnes où il n'a pas un rôle prépondérant.
Non, mais attention, Sif, pour moi, ce qu'on a vu hier soir.
J'aime bien quand tu dis Steve, pas Steve, en tout cas. En plaisir.
Non, mais moi, je ne t'ai jamais appelé Steve. À part quand tu m'énerves, je t'appelle Stéphane. À part quand tu m'énerves, mais ça, c'est autre chose. Mais attention, Dembélé avec alors il a ce statut de ballon d'or qui est important bien sûr, mais par rapport à son histoire avec l'équipe de France et à ce qu'il doit apporter, je veux dire, c'est pas ce qu'il fait hier soir, il y a pas de quoi faire.
On va
faire
se jeter dans l'eau.
Hein. Ouais, voilà, on est d'accord.
Jérôme Pinault.
Non, mais je suis d'accord avec vous, surtout que Ousmane Dembélé, nous on attend surtout à ce qu'il provoque. Alors avec son jeu, évidemment, il provoque des choses. Il va y avoir du déchet. Mais ce qu'on a pu constater hier, c'est qu'en tout cas depuis le début de cette compétition, enfin au premier match, il a fait beaucoup d'efforts défensifs et ça c'est aussi ce qu'on lui demande. Mais hier, je trouvais qu'il était beaucoup plus à l'aise dès la première prise de balle. Il a une démarche, Ousmane Dembélé, quand ça va très bien, on a l'impression qu'il flotte. Alors hier, avec la pluie qui est tombée, c'était encore plus facile.
Une pression de légèreté.
Je trouve que voilà, une pression de légèreté, de facilité et de relâchement. Hier, il l'avait ce relâchement. J'ai dit lors d'une autre grande émission, Les Grandes Gueules du Sport, que l'équipe de France n'avait pas besoin d'avoir un immense Ousmane Dembélé. Je pense que l'impact de Mbappé est plus important que celui de Dembélé. Mais évidemment qu'une prestation comme celle d'hier, même s'il ne va pas enchaîner les buts, il va en faire marquer en jouant comme ça. Ils ont trouvé leur système de jeu. Sur le premier mi-temps, vous avez dit qu'il était moins bon. J'ai trouvé qu'à certains moments, de nouveau, il retombait dans cette errance de position. Il se retrouvait souvent à deux avec Olivier, l'un derrière l'autre dans l'axe, et je crois que Deschamps en a parlé après le match, c'était ça qu'il voulait encore modifier. Mais il est certain qu'avec un joueur comme Ousmane Dembélé en pleine confiance, qu'on aime faire jouer, parce que je suis d'accord avec toi Steve, Mbappé l'a cherché hier pour le remettre en confiance.
Olivier, Jérôme le cherche,
et Olivier le cherche beaucoup,
ils ont envie de se régaler ensemble.
C'est des génies du ballon, à une touche de balle ils arrivent à casser des défenses que on s'imagine même pas que ça puisse passer, et ça passe. Donc évidemment que ces garçons là se cherchent, mais je pense que le nombre de ballons qu'a touché hier Dembélé et le fait de l'avoir fait sortir tout de suite après son but, ça va le faire prendre confiance. Et est-ce qu'il avait besoin de ça? C'est pas un garçon qui a un ego surdimensionné malgré son ballon d'or, que quand tu le sors, il va pas te mettre le banc à dos. La preuve contre le Sénégal, il est resté sur la pelouse.
S'il ratait sa Coupe du Monde, ça serait.
Non, s'il avait raté sa Coupe du Monde et le match d'hier, s'il repasse à travers, alors les critiques auraient peut-être pu l'atteindre. Mais c'est un mec qui a un tel génie que lorsque tu le mets sur la pelouse, la preuve, c'est que ces quatre-là, au moins ces trois-là, n'importe quelle équipe les veut. Hein.
Son génie, parfois, c'est pas exprimé, hein, donc c'est pas du tout. Garantie.
Mais avec une équipe aussi directe qui est sortie jouer, les gars.
Moi, j'ai trouvé une énorme différence entre la première et la deuxième. Où la première, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche un peu quand même. C'est-à-dire qu'il voit toujours très bien le jeu, mais il rate ses gestes techniques. Et ça, on en a moins l'habitude. Ouais. J'ai trouvé beaucoup plus détendu en deuxième, beaucoup plus libéré.
Ça va,
et c'est pour ça que moi je pense que ça peut être
32 siestes à la
mi-temps. Il a fait du vélo. Ça peut être un kick parce qu'on fait du vélo à la mi-temps.
Ils ont joué au foot. Il a dit Dédé.
S'il se remet à jouer au foot sans appréhension de mal faire, bon bah là il y a plus de problème. Quand il joue détendu, il est énorme.
Oui, et puis comme le disait Eric, en plus c'est un garçon et en face dans les matchs élimination directe, les équipes vont pas pouvoir jouer trop bas. Il va falloir qu'elle joue, et c'est un garçon, dès qu'il y a un peu d'espace et la possibilité de porter un peu la balle et d'éliminer, c'est là qu'on l'attend, il va être phénoménal.
17h17, croyez-vous à la théorie du ketchup pour Ousmane Dembélé? On revient tout de suite.
RMC, le Super Moscato Show, la suite du débat.
17h20 sur RMC, croyez-vous à la théorie du ketchup pour Ousmane Dembélé après son but contre l'Irak? Déclic ou pas? 32-16. Charlie, bonjour Charlie.
Salut les gars, salut à tous.
Producteur Charlie. De lait en Mayenne.
T'es où Charlie?
Je suis là. Il est là?
Ah, il est.
T'es avec Lulu?
Ah, Lulu, on l'a déjà fait. Ouais.
Alors, vas-y. Oui,
T'inquiète pas qu'on n'est pas dans l'innovation non plus dans le Moscato Show.
Le patron nous dit le meilleur, c'est le commis de répétition, Vincent. Alors, dis-nous, sur Ousmane.
Alors sur Ousmane, on a vu un petit débat assez chaud la semaine dernière avec Eric sur sa première mi-temps. Notamment
ah,
que moi,
c'est toi qui avais trouvé qu'il avait fait des trucs oui. énormes.
Non, pas énormes. Non, j'avais dit que c'était un des moins pires.
Non, tu avais dit que c'était le meilleur, tu avais dit.
Alors,
non,
cela, oui. dit, cela dit, pour te défendre, j'ai vu que Deschamps,
oui,
a, dit
Deschamps
la même
a dit
chose,
que ça a été le meilleur attaquant de la première période.
Et de quoi puis, de le dernier match.
Oui, oui. Et Mbappé a dit pareil aussi.
Mbappé a dit pareil.
Oui, 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 bien sûr.
Donc,
Eric, c'est un débélix, mais moi, si y a un mec qui te dit que la Terre est plate et que toi tu dis elle est plate, elle est plate, y a pas de souci.
Elle est pas plate.
Vas-y, Charlie.
Oui, donc, non, en fait, vous avez à peu près tout dit. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est l'image sur le but, sur l'offrande qu'il fait Mbappé. Il est à l'entrée de la surface, il a le regard noir. Moi, je le revois à la finale de Ligue des Champions.
Le pressing.
Le pressing, les gars. Il a déclenché, ça a apporté un but. La preuve, il sait faire, c'est, c'était efficace.
C'est un but de Luis Enrique, ça, on va dire.
Ouais, tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord dans la physionomie du pressing et de l'attaque qu'il a fait. Et même sur son but qu'il met, hein, quand il se lance, sur la passe d'Olysée, qu'il arrive à s'emmener le ballon gentiment pour se faire une petite passe, un petit but croisé, enfin, au petit filet opposé, mais c'est du but de Dembélé. Du PSG, donc la théorie du ketchup, moi je pense que il a besoin de se mettre en confiance un petit peu en équipe de France. La confiance, on sait qu'il l'a avec ce qu'il a fait au PSG, il y a pas de souci. Mais je pense qu'effectivement, ça peut le lancer. Et vous avez dit un truc que je trouve vraiment vraiment très très bien, c'est que
c'est moi qui l'ai dit, non ?
Non, c'est Stephen.
Ouais, c'est... Non, ça va. Il y a une bonne équipe aujourd'hui.
Peut-être Eric.
Il y a une bonne équipe aujourd'hui. On transmettra à qui de droit. Hein.
Qu'est-ce qui a été dit du coup, d'homme intelligent ?
Non, même tu as dit que Mbappé, on voyait bien qu'il était qu'il essayait de mettre Ousmane dans les meilleures dispositions. Et c'est vrai, et ça fait de lui je trouve un bon capitaine quand même pour le moment, faut le reconnaître, parce que ils sont quatre attaquants, ils sont quatre mordus de faim pour foutre les ballons dans le fond. Et quand t'as Kylian qui va dire ça, alors qu'on sait très bien que c'est lui, c'est un ogre, hein, y a pas de souci, il veut tous les mettre. Donc qui pense ça de son pote et qui l'aide, je trouve ça cool.
Non mais ça ce qui joue en sa faveur malgré tout, c'est qu'ils sont vraiment potes.
Oui.
Et je suis pas sûr qu'Mbappé ferait ça pour n'importe quel autre joueur.
Griezmann,
non, j'ai pas de nom à citer, j'ai pas de
non, mais eux ils sont ensemble depuis toujours.
Mais là tu vois que le fait qu'ils soient copains en difficulté voire même peut-être critiqué, ça l'agace. Et s'il peut lui filer un coup de main, il lui fera un coup de main.
Ouais, c'est vrai.
Jérôme, on sent que le rôle de capitaine, ce que j'adore dans Mbappé, c'est qu'il est capitaine en dehors. Des fois, il fait des déclarations et sur le terrain, ça suit pas ou on le sent un peu détaché du reste. Là, il est impliqué dedans et en dehors du terrain avec du repli défensif. Hein, on sent le mec qui est là et derrière, ça suit forcément.
Et là où il sera un vrai bon capitaine, c'est quand contre la Norvège, il y aura un pénalty à tirer, il le filera à Ousmane.
Là, tu peux attendre là.
Je me demandais si hier il lui aurait pas donné.
À 2-0, je tiens raison. Pierrot, on peut se poser la question.
Je te dis pas
que je connais la réponse. Je te dis que je me pose la question.
Sur sa dernière frappe, quand elle s'envole, il peut la mettre en retrait.
C'est dommage que ça ne soit pas arrivé, parce que s'il l'avait pas fait, après on aurait fait un débat aujourd'hui.
Le match contre la Norvège, il est intéressant parce que la France a besoin d'un match nul, hein, avec le goal average. La France est devant pour finir premier. On sait que Didier Deschamps veut finir premier.
Pour jouer.
D'abord, avant tout, pour des questions logistiques, pour rester côte est avec a priori moins de chaleur et moins de décalage horaire. Et donc il y a ce match contre la Norvège qui arrive dans 4 jours. Hein, c'est vendredi, donc ça va très vite. La question va se poser de mettre l'équipe type entre guillemets ou de faire tourner. Et puis on va écouter l'avis des Norvégiens, excusez-moi, et de Erling Haaland, qui a répondu à cette question de manière très curieuse.
Honnêtement, je m'en fiche un peu de ce match. Le plus important, c'est que nous sommes qualifiés. C'est incroyable. Ce match, je m'en soucie pas trop. Ils vont probablement nous battre et remporter la Coupe du Monde.
Celui-là, on le connaît pas bien, mais il est un peu ironique. Il est souvent ironique.
Je sais pas si c'est premier ou second degré, parce que la Norvège. Qualifié pour un 16e de finale de Coupe du Monde. Je suis pas sûr que ça soit arrivé non plus.
Mais il est mort de rire moitié quand il le dit.
Ça a dû arriver ici en 98, non,
Pierrot? Norvège,
c'est quand même
98.
C'est quand même un grand moment pour le football norvégien.
La Norvège, ils font un match, il me semble, au Stade Vélodrome
contre les voilà un match non, mais Eric, d'élimination directe.
Mais on est d'accord que c'est un grand moment pour le football norvégien.
Non mais il est moitié. Moi je pense qu'il est moitié premier degré, moitié deuxième degré. C'est-à-dire que pour eux, la Norvège qui sort d'un long tunnel catastrophique où le football existait, fait pas qu'il
dans un groupe avec la France et le Sénégal.
Voilà. Et donc sortir de la poule pour eux, c'est un grand moment. Et après c'est du deuxième degré quand tu dis je m'en fous de ce match.
Ils vont gagner,
ils vont gagner la Coupe du Monde.
C'était l'Italie au Vélodrome, que la Norvège 98. Voilà, juste, qu'est-ce qu'on fait, Eric, pour ce match? Est-ce que tu fais tourner un peu ou pas?
Aïe.
Je pense qu'il peut se permettre, il peut gagner la Norvège en changeant de 3 postes.
C'est dur là. Ouais, mais je pense qu'Mbappé va vouloir jouer tous les matchs, donc tu vas le mettre sur le terrain. Moi, je pense que Barcola peut enchaîner.
Colaté pour Saliba, peut-être, non?
Si il y a des mecs, tu peux changer. Il y aura pas d'impact. Peut-être reposer Olise ou faire qu'une mi-temps. Peut-être Dembélé aussi puisqu'il a fait les deux matchs. Il y a du matos devant pour. Après, tu peux prendre le parti de faire 45 minutes, enfin, faire jouer ton équipe type au début, essayer de tuer le match. D'ailleurs, hier soir, j'ai été étonné que à 2-0. Ils sortent pas des mecs à la mi-temps et ils fassent pas tourner beaucoup plus que ça. J'étais étonné.
Mais globalement, Mbappé, il peut tourner. Hein,
Mbappé rejoue 98.
Il a fait que deux changements lors du premier match.
Mais Mbappé, il jouera tout. Hein.
Allez, dans un instant, on parle de Pogacar qui a remporté le Tour de Suisse à quelques jours du Tour de France. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show, tous les jours jusqu'à 18h. On termine évidemment par le Kikadi. Le Kikadi vous offre cette semaine une cave à vin, la sommelière, une cave à vin 12 silences. Pourquoi 12? 12 bouteilles, pourquoi silence? Parce qu'elle est silencieuse. Kikadi par SMS au 7-32-16.
Ils ont bien fait de trouver le nom en fait.
T'as travaillé, Eric?
Mais non, mais ça fait du bruit.
Quoi, le Kikadi?
Oui.
Ah non, Jérôme,
t'as travaillé?
J'ai l'impression qu'Eric est en vacances déjà.
Je suis à moins de Coupe du Monde là, donc je ne m'intéresse
pas. Jérôme, c'est Montpellier au Kikadi. Il a travaillé, mais il est dans une position d'infériorité. Ouais.
Mais oui, mais après, évidemment, je prends raclée sur raclée.
Après, c'est vrai qu'il joue contre Stade Toulousain, c'est-à-dire moi, l'UBB, Pierrot et. Eric,
c'est Montauban.
Le Racing, tu fais
c'est
dans l'humilité.
Des fois, c'est Pau, des fois, c'est Toulouse en face. On ne sait jamais trop avec le Racing. Mais tout de suite, on parle vélo sur RMC.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show. Alors,
Pogacar vient de remporter le Tour de Suisse sans forcer. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue. Et Jérôme, tu vas nous dire si ça correspond également à ton analyse. C'était sa dernière course avant le Tour et il l'a gagné en gérant. Ça démarre dans 10 jours. On ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Sur ce qu'on voit là, de la forme de Pogacar, sans pépin, il va remporter le Tour de France.
Bah, sans pépin... Et sans adversité sur le Tour de Suisse, il a été dans la prépa, il a continué sa prépa, je suis d'accord avec toi, il est au-dessus, il a jusqu'alors perdu aucune course, il est battu par personne, lorsqu'il y en a un qui lui résiste, il le plie dans la côte d'après. Maintenant, sur le Tour de France, il y aura un peu de concurrence, Jonas Vingegaard vient de donner sa composition d'équipe, c'est très fort, Vingegaard a dominé le Giro comme Pogacar a dominé le Tour de Suisse, on a Paul Sexas qui a fait un bon début de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes et puis qui est tombé, qui sera là pour essayer de le titiller, mais sur sa planète à lui, toutes les étoiles sont alignées. Aujourd'hui, il est le plus fort du monde et ça, on le sait. Et on a l'impression qu'il est encore plus fort que les autres années. Effectivement, à l'approche de ce Tour de France, à part, je dirais, le contre-la-montre où il a fait un contre-la-montre très correct, mais il a battu seulement Mathieu Van Der Poel qui n'est pas un spécialiste sur ce contre-la-montre de moins d'une seconde. Donc, on peut se dire que finalement, il n'était pas si au-dessus que cela et il a fait à fond ce contre-la-montre. Mais il a des données dans les montagnes, et notamment la dernière montée sur le Tour de Suisse avec en termes de watts par kilo qui est juste phénoménal. On peut s'imaginer effectivement qu'il attaque ce Tour de France en ultra favori et on a bien peur qu'il le domine. Maintenant, ça reste une course de 3 semaines et Vingegaard sera là. Pour une fois, tous les grands coureurs et tous ceux qui seront capables d'essayer de lui barrer la route, on parle de Lipovitz, on parle d'Evenepoel, mais aussi évidemment de Vingegaard et de Paul Sexas, ils seront au départ. Il aura fort à faire, mais évidemment, il est l'ultra favori de ce Tour de France.
Mais je dis ça aussi parce qu'on a tellement eu tendance à s'enflammer pour le début de saison de Paul Sexas qu'il faut quand même aussi...
On a quand même
Il faut quand tu même... Tu peux t'enthousiasmer, ça
personne qui a dit que c'est que ça, ça allait rivaliser avec Pogacar pour gagner le Tour, Pierrot.
Déjà, le placer sur le podium, c'est peut-être très ambitieux. Tout simplement.
Je sais pas, parce que c'est le meilleur. Avec Vingegaard, c'est le meilleur de ceux qui sont derrière Pogacar depuis le début de saison. Donc pourquoi pas être deux ou trois,
Pierrot. Je comprends pas. Ça n'a rien à voir le fait que Pogacar éclate tout le monde et le fait que
c'est que ça se peut. Ça a à voir parce que tu peux. Quand t'es. Comment dire, pas prétendant à la victoire, on va pas dire ça, mais prétendant à un podium, en tout cas ambitieux comme l'est Paul Sexas, tu vas être en confrontation directe avec Pogacar et on sait comment il massacre ses adversaires.
Il y a eu des déclarations très intéressantes, Pierrot, cette semaine. Tu as raison, il y a eu des déclarations sur Paul Sexas de la part du staff de Pogacar qui disent on considère à la même hauteur et avec la même méfiance Paul Sexas que Jonas Vingegaard. Et ça peut en dire long effectivement parce que Poggi a cette habitude de plier ses adversaires, de les tordre, ça c'est sûr. Mais est-ce que les tordre, ça dépendra de la. Tu peux pas te faire tordre si tu cours pour la deuxième et troisième place et que si tu cours intelligemment. Quand Poggi va vouloir écraser les autres, je pense que Paul Sexas aura les consignes de pas sauter sur tout ce qui bouge et de le laisser faire et que l'objectif est clairement.
Oui, travailler les
exactement,
aussi, hein.
Exactement. Le seul petit bémol, les copains, c'est que cette semaine, il nous est arrivé quelques mauvaises ou moins bonnes nouvelles de la part de l'équipe de Paul Sexas et de Paul Sexas lui-même. Il devait être en stage. Il n'a pas été en stage de suite. Il a fait plutôt des séances d'homme-traîneur parce qu'il n'est pas totalement, il n'était pas totalement remis de ses blessures. Et surtout, la sélection de l'équipe n'est pas donnée. Il devait y avoir une conférence de presse mardi, demain ou mercredi ou jeudi, pardon. Elle n'aura pas lieu parce que certains de ses lieutenants et certains des membres hyper importante dans le dispositif. On parle de Richie Tello, on parle de Dan Hull, on parle de Stéphane Bisseger. Ils sont pas en forme. Dan Hull, notamment, qui est le grand Hollandais capable de l'emmener très vite sur notamment le premier contre-la-montre, mais aussi de l'abriter dans les étapes de plaine. Il est malade. Il est malade depuis le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour faire ce podium du Tour, il va falloir évidemment avoir la meilleure équipe possible. Et pour l'instant, la meilleure équipe possible, elle a un coup dans l'aile.
Parce qu'on pensait que l'équipe qui était critérium du Dauphiné était celle plus 1, parce qu'il était le droit 7 au Dauphiné, 8 au Tour de France. C'était exactement la même qui allait faire le tour, Jérôme.
Oui, on pensait cela, mais en même temps, Steve, t'as pas loupé que Olaf Koy. Oui. J'en suis sûr que t'as pas loupé Olaf Koy.
Évidemment, depuis qu'il fait Stephen Brunch, il loupe rien. Hein.
Olaf Koy, il a gagné deux étapes sur le Tour de Belgique. Il a battu au sprint à la régulière Tim Merlier, qui sera le favori pour le maillot vert ou l'un des favoris. Et du coup, est-ce que Olaf Koy va aller faire le tour? Et là, faudra prendre un coureur autour de lui. La stratégie, elle va être très simple. C'est on fait le podium avec Paul. Si on a les grimpeurs et les coureurs pour ça. Sinon, est-ce qu'on revoit pas un peu les plans? C'est pour ça que l'équipe Décathlon CMA-CGM a toujours pas donné sa composition.
Dis-moi, Jérôme, sur Poggi, est-ce que... Alors, Vingegaard, on l'a vu sur le Tour d'Italie, il avait été monstrueux. Mais Poggi, est-ce que la seule incertitude, si on peut avoir les incertitudes sur ce garçon-là, c'est qu'il n'est pas fait encore de cette saison de très très haute montagne?
Sur le Tour de Suisse, il en a fait une étape de haute montagne avec plus de 4008 de dénivelé sur la dernière étape et puis il les a broyés. Donc je pense que la haute montagne avec Poggi, c'est pas le problème. Non, l'enchaînement des étapes en haute montagne peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu pour cette année avec Poggi, mais il a une telle marge sur les autres, même avec Vingegaard. Après, Vingegaard a fait un super Giro, je pense qu'il a pas été tapé dans les réserves pour gagner le Giro. Il a une énorme équipe autour de lui. Le départ du Tour est difficile. Il faut toujours laisser une part de suspense.
Mais ce qui fait peur un peu, Jérôme, c'est qu'il a c'est le, comment on dit, c'est le cannibale. C'est les comparaisons, mais
oui, oui.
Ce qui fait,
à l'image de l'épreuve,
ce qui fait à Lenny Martinez dimanche, même, enfin, ça fait mal au cœur pour Martinez. Alors, c'est une course, il veut la gagner, mais j'ai l'impression limite qu'il joue avec lui à un moment.
Adrien,
tu as envie qu'il la gagne, Martinez.
Il va pas se ralentir, ça ne ferait pas pour le Tour de France.
Il se met en mode mission comme s'il était sur le Tour, tu vois ce que je veux dire?
Alors c'est un défi peut-être que pour lui dans le tour il va peut-être être dans cette situation là aussi.
Il y
a deux mois et demi qu'il ne court pas. Il y a deux mois et demi qu'il se prépare. Il y a deux mois et demi qu'il fait tous les sacrifices, qu'il est loin de la maison et qu'il est qu'il a qu'un objectif en tête, c'est le Tour de France. Mais ça fait deux mois et demi qu'un mec qui est une bête à gagner, qui est une bête à compétition, il est ronge sans frein.
Il lui
donne la première
gagner, compète. Ça,
évidemment, il a. À quel moment, quand t'es athlète de haut niveau, tu te dis, oh le pauvre, il est français. Si je le laisse gagner, peut-être que. Mais il y a rien à faire en fait.
C'est
lui,
cruel,
il a envie
en fait,
de gagner. Il est le plus fort et il gagne. Et en plus, il était pressé parce que il a roulé très vite ce jour-là parce que Urska, sa compagne, s'est blessée deux jours avant.
Oui.
Donc plus vite il avait fini, plus vite il était à la maison.
Trop. Ouais.
Mais dis-moi, TGV qui arrive. Le mec, c'est-à-dire que s'il a les courses à faire le soir, par exemple, si sa femme lui dit il faut aller acheter du lait,
mais tu sais que,
il va rentrer plus
vite. Tu sais qu'Eric, je dis ça, mais ça peut avoir une incidence pour les jours à venir. Parce qu'on sait que normalement, les coureurs qui préparent le tour, en sortie de Tour de Suisse ou du Tara, du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont en altitude pour faire un dernier rappel. Lui, il a ses habitudes, normalement, il va à Isola 2000. Et là, parce que sa compagne a été victime d'une grosse chute, il va rester avec elle. Ils disent que psychologiquement, ce sera plus simple et ce sera plus bénéfique pour lui de rester auprès de sa compagne plutôt que d'aller en altitude. Alors certes, psychologiquement peut-être, va-t-on savoir si ces petits détails-là vont pas payer, vont pas lui coûter sur le tour.
Et tu penses que Decathlon CMA CGM peut revoir ses plans pour la compo d'équipe, donc ça changera?
Non, mais
je pense que
de toute façon, avec des coureurs comme Richie Tello qui ont été malades sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'il est un peu mieux là sur le Tour de Suisse, et un Dan Hull, tu peux pas aller avec au départ du tour avec des coureurs diminués. Donc si ces coureurs sont diminués, ils ne vont pas les mettre. Et évidemment, ça va ouvrir la porte et à Olaf Coy qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller sur le tour maintenant qu'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Et avoir Olaf Coy sur le tour, c'est peut-être gagner une étape au sprint vite et enlever de la pression à Tadej Pogacar. Olaf Coy peut aussi servir à Paul Sexas. Et ça peut aussi lui servir à Paul dans les étapes un peu de plaine d'avoir un sprinter, donc de la place à l'avant du peloton.
Voilà, ouais. C'est clair et net et précis.
Pogacar a quand même mis 6 minutes 30 sur une course d'une semaine à Carapace, qui est quand même un coureur correct,
Steve, mais le problème, c'est que Carapace, depuis qu'on parle de la planète Poggi et ce qui se passe derrière, il avec Del Toro, Almeida, Ayuso, Sexas, Vingegaard, c'est sixième rang déjà, tu vois. Ouais. C'est sixième rang.
Sixième rang, 6 minutes, voilà.
Alors, dans un instant, c'est le Kikadi. Ensuite, ce sera Rotten sans flamme. On va donc retrouver Benoît Boutron pour le programme de Rotten sans flamme. Salut Benoît.
En direct de la brasserie Flora. Salut le super Moscato Show dans le plein cœur de Paris, le 9e arrondissement, les grands boulevards. Un gros casting, évidemment Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Souley Diawara. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette victoire? C'est le débat à 18h. Et puis alors là, attention. Un grand procès à 18h30, le procès du format de cette Coupe du Monde qui favorise les stars et les stats. Parce que vous enflammez tout de suite, Mbappé, Messi, c'est super, tout ça. Ah oui, mais faut regarder les adversaires. Donc le grand débat à 18h30 et puis un invité aussi à partir de 18h. Le papa d'Erling Haaland sera l'invité de Rotten sans flamme ce soir.
Très bien, ça on va pas le rater. Comment s'appelle-t-il déjà le papa d'Erling Haaland?
Alf Inge Haaland.
Alf. Il s'appelle Alf, voilà. Je savais bien qu'il y avait un délire avec son nom. Eh bien, on sera là pour écouter Alf. Et rangez vos chats. À tout de suite pour le Kikadi.
Bien Alf, toi, Pierrot, vas-y.
Oui, alors là, c'est très risqué. Hein. Kikadi.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show, 17h48, top jingle.
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Le Super Moscato Show avec Florent et Guillaume. Salut les gars.
Salut.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Il n'y a pas de point d'avant, donc c'est un tirage au sort intégral.
Ah oui, parce que vous avez été nul il y a une heure.
Graham Arnold,
sélectionneur de l'Irak, l'Australien.
Oui.
Les équipes sont composées de Eric Dimeco.
Ouais.
Qui jouera avec.
Pas beaucoup travaillé, apparemment.
Pierre Dorian.
Un peu travaillé, mais pas énormément non plus.
Stephen, tu joues avec Jérôme Pinault.
Mais il
Stephen, il m'a dit que c'était le Stade Toulousain du Kikadi, donc tranquille, ah ouais, il est déroulé. Bien.
Un peu le physique de Romain Tamac.
Alors, de
Jack Willis.
Tu sais que si t'es comme, parce que tu sais que notre Gotanou au GG c'est Benetto et j'ai joué avec lui dimanche et on a perdu. Hein, première fois qu'il perd, j'ai moi.
Tu sais que c'est aussi le meilleur joueur amateur de Kikadi, hein, Benetto.
Tous les jeux du monde, sauf le tennis. Tous les jeux sauf le tennis.
Florent, ton équipe, Florent. Tu veux qu'on te rappelle les compos?
Toi et puis Eric, hein, quand même.
Ouais, bien quand même.
C'est ça, bien fait. Ah, d'accord.
Très bien, Laurent. Okay. Bah, écoute, Laurent, ta cave à vin, 12 bouteilles silencieuses, t'iras l'acheter.
Ah, bah, Stephen, commence à ouvrir tes oreilles, parce que c'est pas Laurent, c'est Florent.
Florent.
C'est parti, 8 non, minutes 30.
C'est parti.
Une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0. C'est parti. Kikadi, nous voulons faire du jeu. Lucu,
Codulo,
c'est dans le rugby. Il a dit ça puisqu'il s'apprête à affronter les Français et il est nouveau dans sa sélection.
Harley Davidson.
Harley Davidson.
Le sélectionneur des Blacks.
Oui, le nouveau coach des Blacks.
Richardson.
Non.
Comment il s'appelle déjà lui.
Ça c'est l'ancien.
L'ancien c'était Scott Robinson.
Allenson.
Ah ouais. On arrête, vous ne l'aurez pas. Dave Rennie.
Rennie.
On aurait pu l'avoir.
Il ne veut pas se renier les Blacks. Ils veulent continuer à faire du jeu.
Je m'appelle Rennie.
Je suis sans famille. Bien sûr.
Oui.
Pourquoi pas. Évidemment. Dave Rennie, le futur adversaire des Bleus. France-Nouvelle-Zélande, c'est le 4 juillet à 9h du mat.
4 juillet.
On sera là.
Anniversaire de Bibi.
Barcelone.
Indépendance des États-Unis aussi.
Indépendance des États-Unis. Anniversaire de Tom Cruise. Anniversaire d'Henri Lecomte. Anniversaire de Stephen Brun.
Cherchez l'erreur. Voilà. Elle est le meilleur joueur de tennis des trois. Cherchez l'erreur. Allez, qui a dit ? Ah, belle histoire. Sur le coup, je n'ai pas rigolé, mais cela me fera des souvenirs. C'est quand même pas tous les jours que l'on visite une prison d'État du Massachusetts.
Domenech,
bien joué.
Et voilà, le premier.
J'avais oublié cette histoire que me rappelle le journal de l'équipe. Domenech, il avait voulu revendre des billets en 94 aux États-Unis devant le stade, mais c'est interdit au Massachusetts, donc il a fait un petit.
Mais en plus, c'était des trucs qu'il avait achetés lui, en plus. C'était pas
oui, des, mais il se retrouvait avec des places en trop, donc voilà. Il se remboursait, quoi.
Il faisait un peu de business, Raymond.
T'imagines
avec la moustache.
Entraîneur des espoirs à l'époque, Raymond Domenech. Une question en un coup. Mbappé est le meilleur buteur français en Coupe du Monde de l'histoire. 16 buts. Le numéro 2, c'est Juste Fontaine. Juste 13 buts. Qui est le troisième?
David Trezeguet.
Éliminé.
Ça doit être
Olivier Giroud. Fatini.
Éliminé.
Non, putain.
Ah, mais non, je sais que c'est. Enfin, je sais, j'ai une idée.
La fin de la musique, c'est terminé pour Eric.
Putain, je pense savoir.
Je l'ai pas.
Eh bien, on arrête.
Il y a plus, j'ai regardé ce matin les trucs.
Eh bien, si tu l'as pas, on arrête.
Pas, non.
Et ton Michel Platini, t'as 5 buts, c'est Thierry Henry, 6 buts. Dans sa carrière en Coupe du Monde.
J'ai des copains aussi, moi.
C'est qui, c'est Titi?
Ouais, Titi. Thierry Henry, 6 buts. Voilà. Vous êtes un peu nul, c'est vrai. Je déclenche une question auditeur. Question auditeur.
Florent et Guillaume.
Allez, Guillaume, tue-le.
Allez.
J'aime bien celle-là. Elle est très intéressante. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'équipe de France de foot. 60 buts. C'est pas mal. Mais qui est le meilleur passeur de l'histoire des Bleus?
Griezmann?
Non. Il est deuxième, Griezmann.
Allez, Guillaume, allez, mon grand.
40 passes décisives, c'est énorme.
Guillaume, réfléchis.
Il distribue les galettes. Et quand je le dis, c'est. La réponse, c'est pas l'évidence, mais en fait, c'est la réalité.
Allez, Guillaume, allez.
3, 2,
allez, Guigui, tente.
1, on arrête là. C'est pas Thierry Henry.
Guigui, c'est Mbappé.
C'est Kylian Mbappé. 40 passes décisives, voilà.
Guillaume, tente des noms, balance, mon grand.
Il a beaucoup d'échecs, le score c'est 1-0, il reste 4 minutes 20.
Et dans un instant, la suite peut-être des points marqués ou pas.
Florent, grand wawa, mais petit niveau quand même.
Florent, grand wawa, la suite.
Le même que toi.
Oui. On continue ce clash tout de suite sur RMC dans quelques secondes. La suite et la fin de ce Kikadi avec une bagarre.
RMC, tout de suite, la fin du Kikadi.
La fin du Kikadi, il reste 4 minutes. Le score de 1-0, petit score. Pour l'équipe Florent, Dimeco Dorian contre Guillaume Brun-Pino.
Une BFM TV, s'il vous plaît. Kikadi. Je n'avais aucune raison de partir de ce groupe.
Sonia Mabrouk,
qui rejoint BFM TV, notre groupe, RMC BFM TV. Elle dit, j'avais aucune raison de partir du groupe où j'étais, mais l'affaire Morandini a provoqué une rupture. Sonia Mabrouk, qui rejoint BFM TV à la rentrée.
Égalisation, un partout.
Bien joué, Steve. Pas mal. Question auditeur, la deuxième du jour.
Allez, Guillaume.
Alors, on vient de débattre de Tadej Pogacar aujourd'hui, mais rappelez-moi, on révise la base. Il est né dans quel pays?
Slovénie, Suisse.
Slovénie. Qui a dit Slovénie?
Guillaume.
Florent.
Florent.
Flo.
Et bien, Steve.
Il lâche rien, c'est bon ça. On remet au goût du jour la question en un coup. J'adore ça. Il y a beaucoup de Mbappé aujourd'hui, hein, il est en train de battre tous les records. Il a marqué 16 buts en Coupe du Monde. 16 buts. Contre qui Mbappé a marqué le premier?
Argentine, oh, bah non.
Éliminé, nul.
C'est Pérou, je crois.
Pérou, t'es là, papa. Le 21 juin.
Bravo, Pérou.
Il la pousse.
Le 21 juin 2018.
Je pensais que l'équipe a marqué le plus.
La pousse.
Et non. 21 juin 2018. T'es parti.
Tu l'avais, Pérou?
Ouais, je l'avais.
Stephen?
Honnêtement, Pierrot?
Honnêtement.
Non, je ne l'avais pas.
Tu sais, c'est le but, il est juste devant la ligne. Il est
3,
pousse, un pouce là, il la pousse à peine.
La poussette. BFM TV. Il reste 2 minutes dans ce Kikadi. Kikadi, ce n'est pas un caprice, c'est simplement injouable.
Madonna,
ça, beaucoup
Madonna.
Trop cher. L'équation est impossible, à résoudre.
Bruno Le Maire, François Hollande.
Il n'y aura pas,
Patrick Martin,
à Bruxelles, de musée du chat.
Musée du chat.
Ah, c'est le maire du Bruxelles.
Gueluc. Philippe Gueluc.
Oh, magnifique.
Bien sûr, il avait monté le projet, peut-être avec Fred Pouillet d'ailleurs, qui est passionné par les chats, d'un grand musée du chat, et avec l'augmentation de tous les prix de construction, etc. C'est plus possible pour Philippe Gueluc.
Chat alors.
4-1.
Chat alors. 4-1. Question. Qui a dit ? Je ne me focaliserai pas uniquement sur les Bordelais.
Galtier.
Non.
Bouillou.
Rény. Bouillou, pro Bouillou.
Je sais pas.
Il parle de ce qu'il va faire là cet été. Il dit vous inquiétez pas, je serai pas que.
Giroud, Thibaut Giroud.
Mais non.
De quoi ?
Je comprends pas la question.
Gérard Lopez.
C'est du rugby.
Hein, c'est Lucu peut-être.
Bah oui, Lucu, bien sûr.
Ah bah voilà.
Maxime
bah
ouais. Lucu.
Ah Lucu, comme ça, Eric, ça vient, ça tombe comme ça du ciel.
Ah oui, ouais, ouais.
Le capitaine du 15 de France.
Lucu, c'est quoi Lucu, c'est quoi? Il joue où, Lucu?
Allez,
à Bordeaux. C'est le comité alors, nommé capitaine.
J'ai dit quoi?
T'es un bandit.
Oui.
T'es un bandit.
Oh là, accusation, diffamation là-haut.
Ah non, mais là, s'il continue, j'appelle mon avocat.
D'accord.
Parce que là, je suis blanc comme un
Eric. Stéphane, reprends-toi là.
Question en un coup.
Mec, a démissionné.
Finale MHR, Stade Toulousain MHR 21h samedi. On révise un peu cette finale.
J'en sais rien.
Côté Toulouse, comment s'appelle l'international espagnol?
Il joue Hernandez. Avec
éliminé.
International espagnol?
Ouais.
Oui,
c'est sérieux.
Mais oui, il y a eu un sujet sur lui de Wilfried Templier dans Moscato Show.
Est-ce que c'est un nom vraiment espagnol?
Non. C'est pas un nom espagnol.
Parce que j'allais dire un truc, je sais pas.
T'allais dire Thomas Ramos.
Sanchez, Ramirez, je sais pas. Moi.
Deux.
Ça m'énerve.
Un. On arrête.
Oui.
Ah non, Mercler.
Joe Mercler.
Qui a dit Sanchez de Ramirez? Ouais, mais tu vois, Frédéric Pouillet voudrait que tu aies un point de donner à l'adversaire à cause de Sanchez Ramirez.
J'ai dit Espagne, si c'était non espagnol, j'aurais dit Sanchez ou Ramirez, j'aurais dit si c'était non espagnol. Ouais, tu dis non.
Non.
Il est bête.
Ça mérite moins deux.
Bête, mais qu'est-ce qu'il est bête, mais c'est fou.
Moins deux pour Sanchez, moins deux pour Ramirez. Un partout.
Le score.
Alors le score, 5-1. Donc soit la Golden remets-toi à zéro, soit c'est gagné pour
Florent. Il va prendre la cave à 20.
Il est 17h59, tout pile, dans une minute, c'est Rotten sans flamme, spécial Coupe du Monde de foot aux États-Unis. La Golden Carotte n'est pas là!
Victoire de Florent, et bravo et félicitations pour cette belle cave à vin. Florent, tu as bien choisi ton équipe.
Le Kikadi sur RMC avec la sommelière. Des caves à vin innovantes de marque française pour conserver vos bouteilles chez vous. Rendez-vous sur lasommelière.com.
Allez, on laisse la place à Jérôme Rotten et Benoît Boutron pour Rotten sans flamme. Le super Moscato Show revient demain 15h sur RMC.
Retrouvez tout de suite le super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.